Nous poursuivons une rencontre de Jésus avec ses disciples, toujours. Alors, ce qui est important de relever dans ces rencontres, c'est que c'est toujours Jésus qui a l'initiative. Ça veut dire plusieurs choses, au moins. D'abord que Jésus veut venir à la rencontre, puisqu'il a mis l'initiative. Et cela signifie aussi que, c'est un truisme, hein, mais c'est d'abord lui qui vient. C'est-à-dire que nous pouvons rencontrer Jésus et nous dire « Tiens, j'ai bien fait de venir là. » Oui, d'accord, sauf que c'est lui qui nous attendait. Toujours Jésus qui est à l'origine de notre vie, de notre création, de notre récréation, de la résurrection, de toute chose. Jésus est le commencement et la fin. Et il faut bien que nous ayons ça à l'esprit, sinon nous allons nous fourvoyer. Nous allons nous tromper, tomber dans l'orgueil, penser je ne sais quoi. Voilà. Donc ça, c'est une des choses que je voulais dire. Jésus vient à la rencontre, c'est donc l'Évangile. Et avant de revenir à l'Évangile, j'en viens au témoignage de Pierre et Jean, qui sont donc arrêtés par ce... Alors, c'est assez intéressant de voir le problème, en fait, qui est relevé. C'est qu'ils enseignent la résurrection d'entre les morts. C'est ce qui est écrit. Ils étaient excédés, à savoir les Sadducéens et les prêtres et les Sadducéens. Donc en fait, les Sadducéens, c'est des gens qui ne croient pas à la résurrection. Donc leur premier problème, c'est qu'on a quelqu'un qui enseigne quelque chose qui ne leur plaît pas. Et en fait, Pierre et Jean vont déplacer le problème en disant, écoutez, croyez ce que vous voulez, Jésus, lui, il est ressuscité. Et c'est vraiment, là encore, la source de toute chose, voyez. Comme je le disais tout de suite, c'est la personne de Jésus ressuscité. Comme le dira Paul, si Jésus n'est pas ressuscité, ben, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Hein. Donc c'est ce Jésus-là, dans le nom duquel cet impotent a été guéri. Jésus de Nazareth. Bien, bien identifié. Vous savez peut-être que Josué, en hébreu, ça s'écrit Jésus. Le Jésus, c'est celui de Nazareth qui a été crucifié. Il est très, très bien identifié et qui est ressuscité des morts. J'attire votre attention sur la finale. Hein, on pourrait reprocher je ne sais quel dogme à l'Église catholique. L'Écriture sainte le dit, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Ce qui signifie qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Donc c'est très important que nous ayons connaissance de ça pour deux raisons. D'abord, de ne pas risquer de professer une sorte non seulement de syncrétisme, c'est-à-dire de mélange de religions, mais de relativisme. Toutes les religions se valent, eh bien non. La seule religion dans le nom de laquelle nous soyons sauvés, c'est la religion de Jésus-Christ. Donc ça, c'est extrêmement important. Non pas parce que, tant mieux, on est mieux que les copains, puisque nous savons que c'est la seule, nous en serons jugés que plus justement, mais plutôt, et totalement du reste, pour l'annoncer au monde. C'est ce que font en fait Pierre et Jean. Leur idée, c'est pas de dire « Ah, nous, on sait la solution », mais c'est de l'annoncer. Sinon, ça n'a plus de sens, hein. C'est la mission de Jésus, hein. Quand il part, il dit « Allez annoncer au monde ». Donc nous avons une responsabilité extrêmement grande et grave d'annoncer au nom de Jésus la vérité. Et si nous ne le faisons pas, eh bien nous manquons à ce que Jésus a demandé. Donc c'est tout de même important d'avoir ça à l'esprit. Tout le monde n'est peut-être pas appelé à faire des grands discours dans la rue, mais tous les chrétiens sont appelés à annoncer Jésus d'une manière ou d'une autre, par leur comportement, par la manière dont ils parlent, par les gestes qu'ils font, etc. Et j'en viens à l'Évangile. Nous avons donc cette très belle rencontre de Jésus avec les apôtres en Jean 21. Et je ne vais pas la commenter aujourd'hui, je vais commenter une expression, parce que c'est une question qui m'a été posée récemment et qu'elle est extrêmement importante. Quelqu'un me disait, voilà, dans Saint Jean, il parle lui-même du disciple que Jésus aimait. D'après ce qu'on peut penser, il parle de lui-même. Alors, vous savez que ça a fait couler beaucoup d'encre, cette affaire-là. D'abord, c'est intéressant de voir que c'est Jean qui utilise le seul cette expression. Dans Matthieu, Marc et Luc, il n'est pas écrit de Jean qu'il était le disciple que Jésus aimait. La deuxième chose qui vient à l'esprit, c'est de se dire, ah bon, il y a des préférences. Alors que les autres, ils ne les aimaient pas. Alors évidemment, ça ne tient pas debout deux secondes. C'est inaudible, c'est impossible, c'est improbable, c'est inexistant. Mais alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est tout de même très intéressant que quand Jean écrit le disciple que Jésus aimait, il ne dit jamais « moi », il ne dit jamais « Jean, virgule, le disciple que Jean aimait ». Parfois, c'est à la troisième personne, donc là, c'est le cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je pense, pour ma part, qu'il faut s'intéresser à cette troisième personne. Et pourquoi je le commente aujourd'hui? Parce que c'est extrêmement important de prendre conscience de cela pendant la semaine de l'octave de Pâques. J'espère que je vais me faire comprendre. Je vais prendre les choses à l'envers. Ce qui fait que Jean est Jean, c'est qu'il sait que Jésus l'aime. C'est devenu son identité. Je ne m'appelle plus Jean, je m'appelle le disciple que Jésus aimait. C'est-à-dire qu'il a pris conscience de l'amour de Jésus pour lui. Parce qu'on ne donne pas sa vie quand on n'aime pas passionnément. Et passionnément au sens de passion, évidemment. Et en fait, pour moi, ce qui fait que Jean a reconnu le Seigneur dans cette pêche miraculeuse, c'est qu'il s'appuie sur la certitude expérimentée que Jésus l'aime. C'est parce qu'il sait et qu'il vit de l'amour de Jésus qu'il le reconnaît. Autrement dit, je pense que si, lorsque Jean emploie cette expression, il parle de son expérience et il nous invite à la faire. Est-ce que tu as conscience que tu es le disciple que Jésus aime? Pour moi, c'est ça le sens de cette expression. C'est une invitation catéchétique à dire « Je, en fait, ce qui fait que je vis, c'est que Dieu m'aime. » Alors théologiquement, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est limpide. Hein. Comme vous le savez peut-être, ou si vous ne le savez pas, je vous l'annonce, ce n'est pas parce que vous existez que Jésus vous aime, comme des enfants par exemple. Et pour aimer vos enfants, si vous avez des enfants, il faut d'abord qu'ils existent. Vous ne pouvez pas aimer concrètement les enfants que vous aurez peut-être. C'est pas possible. Il y a peut-être, vous ne savez pas, est-ce qu'ils existeront, vous ne savez pas à quoi ils ressembleront. Ben, en Dieu, c'est l'inverse. C'est parce que Dieu nous aime et qu'il nous conçoit en lui-même, spirituellement, qu'il nous pose dans l'être. Ça ne veut pas dire que nous ayons une existence antérieure pour autant, mais ça veut dire qu'il faut que Dieu pense à nous pour que nous existions. Si Dieu ne pense pas à nous, nous ne pouvons pas exister. Et pour Dieu, penser et aimer, c'est la même chose. Dieu est amour. Autrement dit, quand Jean dit « Je suis le disciple que Jésus aimait », il confesse que Dieu nous crée parce qu'il nous aime. Et il confesse aussi qu'il a pris conscience que ce qui fait son identité, c'est pas qu'il est homme, c'est pas qu'il est femme, c'est pas qu'il est à telle époque, c'est pas qu'il s'appelle Jean. Ce qui fait son identité, c'est que Jésus l'aime. Tout ce qu'il est repose sur le fait que Jésus l'aime. Et la manière dont il en parle est une invitation pour nous à nous dire, est-ce que ta vie repose sur cette unique certitude? Il n'y en a pas d'autre de nécessaire, qui est Jésus même. Voilà. Et si je n'en suis pas certain de vivre de ça, eh bien, au fond, ça signifie que je n'ai pas encore vraiment, totalement, complètement rencontré Jésus. Qu'il y a des parties de moi-même qui sont encore timides, qui disent, j'ai entendu que, mais est-ce que ça vaut pour moi? Voilà, donc ça veut dire qu'on a besoin d'être évangélisé, tout simplement. Et donc, ce disciple que Jésus aimait, c'est une invitation à entrer dans cette vérité ontologique de l'ordre de l'être qui fait que nous existons. Et à partir du moment où nous vivons de cet amour de Dieu, l'amour de Dieu, ça s'appelle le Saint-Esprit, hein, nous sommes habités par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait dire à Jean, c'est le Seigneur. Et j'espère que vous comprenez, c'est un peu concis ce que je dis, mais vous voyez, il faut complètement sortir de cette débilité congénitale et rectiligne qui consisterait à penser qu'il y a des préférences, que c'était pas ça, que c'est pas lui, enfin, le n'importe quoitisme habituel, et se dire non, ce que Jean a dit est extrêmement profond. Il vit de l'amour de Dieu. Point. Toute sa vie repose sur cette certitude et elle est vécue. Elle n'est pas seulement sue, elle est mise en acte. Voilà. Donc voilà ce que je pense. Donc je vous apporte ce... Et alors, ce qui est important, parce qu'il y a une suite, c'est que c'est parce que il sait qu'il vit de cet amour qu'il témoigne. Et là, il témoigne. Voilà. Et plus tard, il parlera le disciple que Jésus est. Et je témoigne que c'est vrai. Vous voyez, c'est la certitude d'être l'aimé, avec un accent aigu, de Dieu, ce que, entre parenthèses et sans parenthèses aussi, nous sommes tous, qui le fait témoigner. C'est pas la force du poignet, c'est pas la méthode Coué, c'est pas je sais pas quoi moi. Il est fondé sur l'amour de Dieu et sur rien d'autre. Et voilà. Et c'est ça qui le pousse à témoigner, qui le pousse à vivre, qui lui permet de vivre, qui lui permet d'annoncer le nom de Jésus, qui lui permet toute cette théologie de Jean qui est bouleversante. Il est animé par cet amour. Si je puis dire, je prendrai une image, c'est son âme. Son âme, c'est l'amour de Dieu. Voilà. C'est une image, hein, elle est un peu limitée par certains côtés, puisque l'âme est créée et que l'amour de Dieu est incréé, par exemple. Mais elle habite son âme, quoi, vous voyez. Voilà. Voilà, je vous livre ça, parce qu'il y a de quoi méditer là-dessus. Hein. Donc, cette interprétation... De considérer que, en fait, le disciple que Jésus aimait, c'est celui qui confesse l'amour de Dieu pour lui. Je suis le disciple que Jésus aime. Nous pouvons tous le dire. Il faut le vivre aussi. Vous voyez, on peut le dire parce que c'est vrai, du point de vue théologique, par le baptême. Et même sans être baptisé, on le sait pour les autres, tout être humain existe parce que Dieu l'aime. Mais tout le monde n'en a pas conscience et tout le monde ne le vit pas, y compris parmi les chrétiens. Donc il faut en parler, il faut l'annoncer, il faut le dire, il faut le vivre.